Bonjour, chers collègues. Je vais commencer par faire quelque chose qui pourrait être mal avisé. Je n'étais pas sûr de devoir le faire ou non, et j'hésite encore comme vous pouvez le voir, mais je vais partager avec vous l'historique de mes visionnages sur YouTube. L'une des choses que je regarde sur YouTube, je n'entrerai pas dans les détails sauf pour un, mais il y a beaucoup de nouvelles, évidemment parce que je travaille et que j'écris pour le magazine The Real Truth. Donc des vidéos sur les récents ouragans et la dévastation là-bas. Des vidéos sur les nouvelles technologies. C'est un de mes centres d'intérêt. Beaucoup de podcasts politiques, à la fois conservateurs et libéraux. Je les regarde pour que vous n'ayez pas à le faire. Il y a probablement des essais vidéo sur des films classiques, un de mes centres d'intérêt, et, bien sûr, de courtes vidéos très importantes sur des chats qui réagissent de manière excessive. Mais là-dedans, oh, j'en ai vu une, ma femme m'en a montré une hier. Il s'agissait de 12 chats dans une pièce et une petite chose s'est produite, puis tous les chats se sont mis à trembler et à voler dans toute la pièce. Les chats sont donc une créature merveilleuse, mais il y a une vidéo que vous verrez si vous la regardez, et plus précisément, elle s'intitule 8 Hard Truths of Long Term Runners, 8 dures vérités des coureurs de longue date. La course à pied est l'une de mes principales formes d'exercice. C'est pourquoi YouTube m'a proposé cette vidéo. Mais lui, vérité des coureurs de longue durée. C'est différent des coureurs de fond. Il s'agit de personnes qui courent pendant une longue période. Et vous pouvez voir qu'en tant que chrétien, vous commencez à penser à la course, d'accord, la Bible parle beaucoup de la course et elle parle souvent de course et de longue distance, d'une longue course continue, ce qui est une façon de voir le christianisme et la voie de Dieu. C'est un marathon. Mais il était intéressant de regarder cette vidéo et d'y réfléchir d'un point de vue différent. Cette analogie spirituelle des coureurs à long terme, ceux qui ont couru pendant une longue période, pas seulement une course, mais sur une période de temps, des mois, des années, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait. Et certaines des leçons de cette vidéo ne s'appliquent pas toutes. Certaines sont du genre, j'ai trop de paires de chaussures, mais cela ne s'applique pas au christianisme. Mais des choses comme, cela peut être ou ne pas être une confession. Mais des choses comme la discipline, l'apprentissage de la discipline, qu'il s'agisse de rentrer du travail, au lieu de rester assis sur le canapé, de mettre sa tenue de course et de sortir pour s'assurer de courir afin de commencer à développer sa forme physique au fil du temps, ce qui prend du temps pour développer sa forme physique et voir des améliorations. En courant, on ne voit pas d'amélioration tout de suite, cela prend du temps. Vous commencez à voir les parallèles spirituels ici, à faire les bons choix. Voir que ce n'est pas une bonne décision pour moi. Je ne vais pas prendre cette décision, pour des raisons physiques, mais cela peut aussi s'appliquer à la course spirituelle à long terme. Je commence donc à y réfléchir et à l'appliquer. Et je voulais partager cela avec vous tous. Et il y a en fait un verset qui s'applique à ce dont nous parlons. Hébreux 12. Tournons-nous vers cette page. Nous pensons à la course chrétienne à long terme. Plutôt qu'une seule course, quelque chose que nous faisons et qui implique tout ce que nous faisons dans notre vie. Planifiez votre vie autour d'elle, votre journée autour d'elle, la course chrétienne à long terme. Nous sommes ici en Hébreux 12. Il est dit que Paul parle tout le temps de la course à pied. Vous verrez beaucoup de ces versets aujourd'hui, mais celui-ci s'applique au sujet et à la manière dont nous allons examiner cette analogie entre le christianisme et la course à pied. Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous accable facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courir avec patience. Il faut du temps pour développer les muscles et l'endurance, pour mettre son cœur en forme afin de pouvoir courir sur de plus longues distances, pour obtenir cette forme spirituelle ou physique. Cela prend beaucoup de temps. Il en va de même pour nous, n'est-ce pas, mes frères? Courir avec patience. Le titre clickbait de tout à l'heure, 8 Hard Truths of Long Term Runners, je vais utiliser une déclaration d'objectif spécifique au clickbait ici. Le voici donc. Explorons quelques vérités dures des coureurs chrétiens à long terme. Personnellement, je n'ai trouvé aucune des vérités de la vidéo comme étant des vérités dures, mais c'est pour attirer votre attention. Et en réalité, ce ne sont que des leçons et des choses que l'on apprend avec le temps et cela m'a réconforté. Je cours depuis quelques années et le fait de voir certaines de ces leçons que j'ai apprises et de me dire, d'accord, quelqu'un d'autre a compris, quelqu'un d'autre a compris. Quelqu'un d'autre a compris. Première leçon, n'oubliez pas le chemin parcouru. Il est important que nous fassions le point sur nos progrès et que nous nous remémorions le chemin parcouru. Nous nous laissons facilement distraire par ce qui se passe dans l'immédiat. Il est bon de se remémorer les progrès accomplis, car quelle que soit l'ancienneté physique de la course à pied, il y a toujours quelque chose de plus à faire. Je veux être capable d'aller un peu plus vite. Je veux être capable d'atteindre ce point de référence, de faire ceci ou de courir cette course dans ce laps de temps. Et cela peut donner l'impression d'être vaincu. On a l'impression de ne pas progresser. C'est pourquoi il est bon de revenir au début. Je ne parlerai donc pas de ma propre course à pied tout au long du parcours, mais elle a sa place ici. J'ai une application qui s'appelle Runkeeper. C'est celle que j'utilise. Il y en a beaucoup. Mais je me souviens de la toute première course que j'ai faite et que j'ai enregistrée avec cette application. C'était le 24 novembre 22. C'était à 18h41. Et je peux regarder la course, où j'ai couru sur le campus. C'est indiqué sur une carte. J'ai couru 3,02 miles et 10 minutes, 31 secondes par mile, et j'ai brûlé 360 calories. Alors merci, Runkeeper. Mais j'ai aussi noté comment je me sentais après la course. Il m'a demandé et m'a dit « mauvais ». Et il y a eu un froncement de sourcils. Et il a dit que j'avais mentionné que mes genoux et le haut de mes jambes me faisaient mal. Et il y a encore des courbatures et des douleurs dues à la course, mais c'était au début. Je me souviens de ce que c'était. J'avais des chaussures trop petites. Je ne savais pas qu'il fallait prendre une pointure supérieure pour avoir de meilleures. Pour avoir la bonne taille de chaussures. Je faisais toutes sortes de choses de travers. Pensez donc à l'époque où vous avez appris la vérité de Dieu pour la première fois et comparé avec votre situation actuelle, mes frères. Et vous avez parcouru un long chemin. Même ceux qui ne sont pas des coureurs de longue date ont peut-être commencé à apprendre la vérité de Dieu récemment. C'était encore un voyage pour arriver à s'asseoir dans votre assemblée et à écouter la voix de Dieu. Vous savez, l'épanouissement. Toutes ces choses ont pris du temps et c'était aussi un voyage. Vous êtes donc toujours un coureur de longue haleine. Vous êtes peut-être un peu plus jeune. Vos chaussures sont peut-être un peu plus petites qu'elles ne devraient l'être, mais spirituellement, regardez en arrière. Pensez-y. C'est la saison de la fête des tabernacles, et vous pouvez vous remémorer votre première fête. À quoi ressemblait-elle? Quelles étaient les choses que vous ne saviez pas? Et vous avez peut-être fait des erreurs. Ce n'était pas tout à fait ma première fête, mais lors de ma première fête de mariage, ma femme et moi avons attrapé la mononucléose juste avant la fête. Elle était donc très fatiguée et n'a pas pu faire beaucoup de bagages. Elle a pu se lever et faire un peu de bagages pour la fête. Cela n'a duré que quelques minutes, puis elle s'est recouchée et a refait ses valises. Nous sommes allés à Pensacola, en Floride. J'ai préparé la voiture et nous sommes partis. Nous avons roulé toute la nuit et nous sommes allés jusqu'à... Je crois que nous nous sommes arrêtés à Nashville en chemin. Après plusieurs heures de route, ma femme m'a demandé à voix basse si j'avais apporté mes vêtements suspendus. Et non. Je ne l'avais pas fait. Nous avons donc pu appeler quelqu'un qui a pu trouver notre clé supplémentaire et obtenir ces choses. Mais en arrivant sur le site, je me suis rendu compte que je n'avais pas apporté de chemise habillée. C'était à Pensacola et il n'y avait pas de grand magasin à proximité. Je suis donc allé dans ce petit magasin qui vendait des vêtements et j'ai acheté une chemise en polyester. Une chemise blanche et une autre qui me convenait. Ma chemise en polyester, c'est la seule que j'avais. Heureusement, comme elle était en polyester, je pouvais la laver tous les jours et la suspendre pour qu'elle soit sèche au matin, parce qu'elle est en plastique, mais c'était l'une de mes premières fêtes et vous pouvez y repenser, à ces erreurs physiques que vous avez commises. Et lorsque vous apprenez la voix de Dieu et que vous avez plus d'années à votre actif, vous savez à quoi vous attendre. Vous avez fait les répétitions, vous êtes déjà passé par là, et vous faites moins de choses, et vous pouvez voir les améliorations qui se produisent. C'est la même chose sur le plan spirituel, où l'on peut voir les erreurs que l'on a commises dans le passé. Et vous, au lieu de voir ces erreurs, vous les voyez comme une occasion de grandir. Et vous grandissez et vous devenez meilleur dans votre course à long terme. Regardons comment Dieu nous voyait lorsque nous avons été appelés pour la première fois. Allons dans les premiers Corinthiens. Voici dans quel état nous étions lorsque Dieu nous a appelés pour la première fois. 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 27. 1 Corinthiens, 27. Mais Dieu a choisi les choses insensées du monde pour exciter les sages. C'est nous. Il a choisi les choses faibles du monde pour compléter les choses puissantes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui sont méprisées. Oui. Et les choses qui ne sont pas pour réduire à néant les choses qui sont. Afin qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. Ainsi, lorsque nous avons été appelés pour la première fois, spirituellement parlant, nous étions flasques et faibles, une sorte de mauviette. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Mais ensuite, nous avons commencé ce programme de course à pied à long terme et nous sommes sortis, nous avons couru, et il y a. Nous avons probablement couru trop fort à l'occasion et nous nous sommes blessés, et toutes sortes de choses se sont produites et nous avons appris des leçons au fil du temps, mais vous pouvez regarder en arrière et jusqu'à maintenant, mes frères, et quelle que soit la durée de ce voyage, regardez l'amélioration. Vous voyez cela? Ne vous laissez pas piéger par le présent. C'est comme, oh, je ne suis pas encore parfait. Bien sûr, vous ne l'êtes pas. Bien sûr, nous ne le sommes pas. Mais le fait de regarder en arrière peut vous aider à voir les progrès que vous avez accomplis. Reconnaissez qu'il y a moins de courses où vous vous sentez mal après coup et où vous froncez les sourcils. Mais lorsque vous regardez en arrière et que vous vous souvenez du chemin parcouru, il y a une mise en garde à ce sujet. Vous devez être encouragé par le passé, mais ne le laissez pas envahir votre pensée et vous décourager. Passons à Philippiens 3 et au verset 13. Vous avez donc appris de vos erreurs passées. Vous les avez vues et vous les avez dépassées. Et voici ce que dit Paul, frères et sœurs, je ne me considère pas comme ayant compris, mais je fais une seule chose. Philippiens 3, 13. J'oublie ce qui est en arrière et je m'avance vers ce qui est en avant. Je me presse vers le but, pour le prix de la haute vocation de Jésus-Christ. Veillez à ce que nous dépassions ces choses. Laissez le passé être le passé. Oui. Vous pouvez regarder en arrière de temps en temps et rire de vous-même en vous disant, « Oh, vous vous souvenez de ces erreurs que j'ai faites ?» et voir le chemin parcouru, mais il ne faut pas s'accrocher à ces choses et les laisser vous consumer en vous disant, « Je ne suis pas assez bien. » Vous allez de l'avant. Poussez-vous vers cette marque. Revenons à Hébreux 12. Ajoutons-y un peu plus, pour nous assurer que nous dépassons les erreurs du passé. Hébreux 12. Une fois que vous y serez. Vous voudrez peut-être y mettre un petit signé. Nous allons revenir à ce verset encore et encore. C'est notre base. L'épître aux Hébreux 12 revient au premier verset. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous accable si facilement. Tout poids. Cela provient du Ellicott's Commentary, mais il dit, le mot grec pour tout poids était parfois utilisé par les écrivains grecs pour désigner la taille et le poids excessif du corps que l'athlète cherchait à réduire au moyen de l'entraînement. Vous êtes donc gros, et vous devez vous débarrasser de cette graisse. Je ne sais pas pourquoi il a dû l'écrire ainsi. La taille et le poids excessif du corps. Mais mettez ces choses de côté. Débarrassez-vous-en. Et le péché qui nous assaille si facilement. Nous pouvons être. On pourrait aussi comparer cela à des vêtements. Si l'on porte trop de vêtements, il est plus difficile de courir avec. Vous n'avez pas le bon équipement. Quelles que soient les choses qui nous retiennent, nous devons les mettre de côté. Débarrassez-vous de ce poids supplémentaire. Il peut s'agir d'une chose à laquelle nous consacrons trop de temps et qui ne nous permet pas de consacrer notre temps aux choses spirituelles. Cela nous empêche d'étudier la Bible et de prier. Quoi qu'il en soit, mettez-le de côté. Débarrassez-vous-en. Si vous courez en croc tous les jours, trouvez de nouvelles chaussures. Vous pouvez penser au parallèle spirituel, frère, ou trouver ces choses qui nous encombrent, ou c'est peut-être un petit poids supplémentaire dont nous devons nous débarrasser pour nous permettre de faire plus dans ce. Au 1er siècle, la course à pied se pratiquait souvent avec très peu de vêtements. Le mot pour gymnase, nous parlons d'aller au gymnase, est un mot grec, et gymno, d'où vient gymnasium, mais il signifie nu. Et quand vous voyez, déposer tout poids et le péché qui nous assaille facilement, vous pouvez penser à comme, se débarrasser de cela. C'est ce que dit Paul. C'est comme tout. Désolé pour cette image mentale. Mais c'est presque absurde, alors nous comprenons. Quelles que soient les choses qui nous empêchent d'avancer, spirituellement, mettez-les de côté. Débarrassez-vous-en pour pouvoir courir et être ce coureur de longue haleine, sans être encombré par quoi que ce soit, les soucis de cette vie. Deuxième leçon. S'appuyer sur les autres pour maintenir la motivation. S'appuyer sur les autres pour rester motivé. Du point de vue de la course à pied, il est assez facile de comprendre que le fait d'être entouré d'autres personnes vous motivera. C'est ce qui se passe dans tous les domaines. Vous pouvez penser à n'importe quel hobby. Si vous faites du crochet, disons du crochet, et que vous trouvez un groupe sur Facebook qui crochète aussi un ou d'autres frères, et que vous discutez avec eux sur Teamhub, c'est encore mieux, cela vous donnera la motivation d'en faire plus et d'apprendre plus et de grandir. C'est la même chose pour la course à pied. Le fait d'être entouré d'autres personnes vous aide. Je sais qu'il y a beaucoup de courses que je fais ou je veux garder. C'est ce qu'on appelle une course lente, et je suis censé aller lentement. Et quand je vois d'autres personnes sur le terrain, cela me pousse à aller un peu plus vite parce que je veux en faire un peu plus. Mais le fait de voir ces exemples vous aide à en faire un peu plus et à courir un peu plus fort. Pensez aux clubs de course à pied, aux équipes de tout le pays, du lycée et de l'université, où ils travaillent ensemble et où il y a un objectif commun et une compétition amicale pour en faire plus. Ces exemples nous aident à nous motiver. Nous sommes donc à nouveau en Hébreux 12. Revenons-y. J'espère que c'est votre base. Il y a une autre forme d'exemple et de motivation que nous pouvons obtenir. Hébreux 12, première partie, c'est pourquoi nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ce chapitre d'Hébreux 12 vient juste après Hébreux 11, le chapitre sur la foi, et il énumère de nombreux grands personnages de la Bible et de l'Ancien Testament, ainsi que leurs exemples et la foi qu'ils ont eue. Nous pouvons les regarder et cela nous motive à continuer. Ils ont réussi, et vous pouvez apprendre de leurs erreurs, apprendre de ce qu'ils ont fait de bien. C'est ce que nous allons faire avec quelques exemples. Appuyez-vous sur eux pour maintenir votre motivation. On peut même penser à la nuée de témoins de l'Ancien Testament. Ils vous encouragent à rester motivé. Prenons l'exemple de Caleb. Nous allons nous reporter au chapitre 14 du livre des Nombres. Nous ne parlons pas souvent de Caleb, mais nous allons le faire aujourd'hui. Il était certainement un coureur spirituel de longue haleine. Nombre 14. Le contexte est le suivant, Israël est arrivé sur la terre promise avec Moïse et ils ont envoyé des espions. Tous les espions sont revenus et ont fait un mauvais rapport, à l'exception de Josué et de Caleb. Ce sont les deux seuls qui ont donné un bon rapport. Et, bien sûr, Israël a écouté le mauvais rapport et Dieu n'était pas compte. Donc, les numéros 14 et le verset 20. Je commencerai par le verset 21. Je suis vivant. Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, parce que tous les hommes qui ont vu ma gloire et les miracles que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces 10 fois, il s'agit de tout Israël, et qui n'ont pas écouté ma voix, ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père, et aucun de ceux qui m'ont provoqué ne le verra. Verset 32, quant à vous, vos cadavres tomberont dans le désert. Il s'agit de tous ceux qui ont rejeté Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu tous les miracles en Égypte, et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Dieu leur avait livré la terre promise. Vos enfants erreront dans le désert pendant 40 ans, et ils enterreront vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient détruits dans le désert. Au verset 38, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, qui étaient du nombre des hommes, entrèrent dans le pays, le cherchèrent et y demeurèrent. Vous pouvez donc penser qu'à ce stade, Caleb était prêt à entrer. Josué était prêt à y aller. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils étaient prêts à prendre la terre promise. Et puis 40 ans. Imaginez être Josué et Caleb, nous regardons ici Caleb, mais ils ont vu tous leurs amis, tous ceux qui sont sortis d'Égypte avec eux, ils sont tous morts. Et il a dû courir et continuer à avancer à travers les hauts et les bas de toutes ces 40 années dans le désert, mais il s'est accroché et il a continué à aller de l'avant. Passons à Josué 14. Voici la fin de l'histoire. Après ces 40 années, Caleb a couru avec patience. Il savait qu'il pourrait aller dans la terre promise. Dieu le lui avait promis et nous verrons quelques promesses spécifiques, mais il a couru avec patience et a attendu le moment choisi par Dieu. Josué 14. Nous commencerons au premier verset. C'est Josué qui distribue la terre promise aux Israélites. Voici les pays dont les enfants d'Israël ont hérité dans le pays de Canaan, la terre promise, et dont le sacrificateur Éliézer, Josué, fils de Nun, et les chefs des pères des tribus d'Israël leur ont distribué l'héritage. Verset 6. Et enfin ce fut le tour de Caleb. Il est arrivé après tout ce temps où l'on n'avait pas cessé d'aller de l'avant. Verset 6. Les fils de Juda vinrent auprès de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénésien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, à Kadès-Barnéa. Si tu le dis vite, cela sonne bien. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès, que nous appellerons ainsi, pour explorer le pays, et je lui rapportais la parole que j'avais dans le cœur. Cependant, mes frères qui étaient montés faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi, j'ai suivi mon Dieu à la lettre. Moïse jura en ce jour que le pays que les pieds ont foulé sera votre héritage et celui de vos enfants à perpétuité, parce que vous m'avez suivi, moi, le Seigneur, mon Dieu. » Caleb a donc entendu que Dieu et Moïse lui avaient promis un héritage 40 ans auparavant, et il a gardé cela avec lui, ce qui l'a motivé, et le voilà prêt à le revendiquer. Il n'a pas eu une mauvaise attitude et ne s'est pas arrêté de marcher dans le désert. Il est allé jusqu'aux boutiques. Et au verset 10, « Voici que le Seigneur m'a gardé en vie. » Et comme je l'ai dit, c'est 45 ans plus tard, même plus de 40, depuis que le Seigneur a parlé à la parole de Moïse, alors que les enfants d'Israël erraient dans le désert, et maintenant voici, j'ai 85 ans, mais nous verrons. Caleb, lui, n'a pas lâché prise. Il s'est maintenu en forme physiquement, mais aussi spirituellement. Nous verrons ici l'aspect physique, au verset 11. « Je suis aussi fort que le jour où Moïse m'envoya, et la force était alors, de même que je suis maintenant fort pour la guerre, pour l'aller et pour le retour. Maintenant, donnez-moi cette montagne. » C'est pourquoi l'Éternel parla en ce jour-là, et vous l'entendîtes. Appuyez-vous sur l'exemple de Caleb, c'est la promesse physique que Dieu lui a donnée. Regardez son exemple, réfléchissez-y, il a traversé le désert pendant 40 ans. Cela a dû être très difficile, mais il a continué. C'est l'un des nuages de témoins qui nous motive et nous permet de penser à notre course chrétienne à long terme. Il y a un autre témoin que nous pouvons écouter et c'est David. Passons à la première partie du livre de Samuel, la 16e. 1 Samuel, 16. David a également reçu une promesse, mais il a dû attendre Samuel 16 et le premier verset, « L'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu Saül, puisque je l'ai empêché de régner sur Israël ? Remplis ta corne d'huile et va, et je t'enverrai vers Isaïe, le Bethléemite, car je me suis procuré un roi parmi ses fils. » Saül avait donc rejeté la voix de Dieu et avait été rejeté par Dieu, et Samuel est ici pour trouver un autre roi parmi les fils d'Isaïe. Verset 13. Bien sûr, ils ont prié tous les frères, et c'est finalement David, qui est jeune à l'époque, qui a été choisi. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur fut sur David à partir de ce jour. Samuel se leva et se rendit auprès de Rama. À partir de ce moment-là, David savait qu'il serait roi, mais Saül était toujours roi. J'aimerais que nous avancions lentement d'une page à l'autre. Dans ma Bible, à la page suivante, David bat Goliath. Continue à avancer, tue les géants, se lie d'amitié avec David ou avec Jonathan. Saül est très jaloux de David et veut le tuer. Dieu, bien sûr, permet à David de vivre. David s'enfuit, il est dans le désert. Continuez. Samuel meurt. Celui qui l'a oint. David. Tu continues. Saül le poursuit à nouveau. Allez jusqu'au livre du 2 Samuel. La promesse n'était pas encore arrivée, mais il a continué à courir, il a continué à avancer. Enfin, nous arrivons à 2 Samuel 2 et au verset 4, 2 Samuel 2, 4. Les hommes de Juda vinrent réunir David pour roi sur la maison de Juda. Bien sûr, c'est après la mort de Saül. Il s'agissait donc du roi de Juda, puis l'un des fils de Saül s'est retrouvé à la tête d'Israël et ce n'est que quelques pages plus loin, dans le 2 Samuel, au verset 5 et 3, qu'il est finalement oint comme roi d'Israël. Lorsque nous parlons de course à long terme, David sait ce que c'est. Jour après jour, il y avait des difficultés, mais il continuait à avancer. De temps en temps, il était tenté de prendre des raccourcis ou de faire les choses plus rapidement, mais il s'est rendu jusqu'aux boutiques. Voyons donc un exemple un peu plus poussé de David. Nous reviendrons au 1 Samuel 24. 1 Samuel. C'est à ce moment-là que Saül s'en prend à lui. Mais dans notre course chrétienne à long terme, il y a des moments difficiles, n'est-ce pas, et nous devons compter sur Dieu, nous devons traverser ces moments, continuer à aller de l'avant, même lorsque les difficultés surviennent. Je commencerai par le premier verset, chapitre 24, verset 1. Lorsque Saül revint de sa poursuite des Philistins, on lui dit, « Voici David dans le désert d'Enjodi. » Saül prit 3000 hommes d'élite de tout Israël, et il alla chercher David et ses gens sur les rochers des chèvres sauvages. Il arriva à la bergerie, près du chemin, où il y avait une caverne. Saül entra pour se couvrir les pieds. Un euphémisme pour utiliser les toilettes. David et ses hommes restèrent à l'intérieur de la grotte. Saül était donc dans une position compromise. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé, je livrerai ton ennemi entre tes mains, et tu le traiteras comme il te plaira. » David se leva et coupa la jupe de la robe de Saül en privé. On pouvait voir à quel point David était compétent. C'était un grand guerrier, furtif, et capable de faire, capable. Et ici, Saül est dans sa main, il aurait pu le tuer, mais il a coupé la robe. Et après avoir fait cela, sa conscience a commencé à le gêner. Verset 7, David resta dans la caverne avec ses serviteurs en leur disant de ne pas s'élever contre Saül. Mais Saül sortit de la caverne et s'en alla. David se leva ensuite, sortit de la caverne et cria à Saül, « Mon Seigneur, le roi !» Saül le regarda, et David baissa le visage vers la terre et se prosterna. Au fur et à mesure qu'il avance, David se met à la merci de Saül et lui dit, « Je n'aurais pas dû faire cela. Tu es le roi oint par le Seigneur. Je n'aurais pas dû faire cela. » Et finalement, son attitude a permis d'adoucir Saül et David a été épargné. Nous le verrons au verset 16, lorsque David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce là ta voix, mon fils David ?» Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien, et moi je t'ai rendu le mal. » C'est un exemple de coureur chrétien à long terme ou de coureur de la voie de Dieu. Il y a eu un moment difficile, et il aurait pu prendre la mauvaise décision. Il en a pris une, mais il n'a pas tué Saül. Et finalement, Dieu l'a délivré. Et Dieu nous délivrera aussi, quoi qu'il arrive. Mais David a appris à attendre. Et vous pouvez penser à cette nuée de témoins. David est l'une de ses voix et il nous encourage. Passons au psaume 27. Voici ce que la voix de David nous dira. Psaume 27 et verset 14. Il s'agit donc du psaume de David. Imaginez donc ce roi d'Israël prononçant ces mots. C'est quelqu'un qui a attendu. Il a été patient, il a continué à courir. Verset 14. Attends l'Éternel, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Attends, je te dis. Le roi David nous dit ceci. Sur le Seigneur. Bien sûr, il y a tous ces grands de la Bible et nous devrions écouter leurs voix et leurs exemples. Cela nous permet de nous encourager, mais nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Et nous devons nous assurer que nos exemples nous encouragent les uns les autres. Tournons-nous d'abord vers la première Thessalonienne. En plus de cette grande foule de témoins, il y a tous ceux qui courent avec nous dans l'Église d'aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, et nous commencerons au verset 11. 11. C'est pourquoi, réconfortez-vous et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites vous-même. Je n'aime pas la version King James. Quand j'étais enfant, je l'ai appris de cette façon, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres et construisez-vous les uns les autres. Et il y avait une chanson d'enfant, que je ne vous chanterai pas. Mais c'est ainsi que je m'en souviens. Encouragez-vous les uns les autres et construisez-vous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres, frères. Si vous voyez quelqu'un faiblir ou s'affaiblir, s'il est normalement très joyeux et qu'il ne l'est plus autant, remarquez-le. Encouragez-le, parlez-lui. Le simple fait d'être un bon exemple est encourageant. Comme je l'ai déjà mentionné, dans le cas de la course physique, lorsque vous voyez d'autres personnes sortir et courir, cela vous donne envie de le faire aussi. Je suis très reconnaissante aux autres coureurs du campus, ils m'encouragent. Je peux regarder la vallée par ma fenêtre et voir des gens courir, et cela me donne envie d'en faire plus. J'espère que mon exemple fait de même pour eux. Il ne s'agit là que de la course physique. Il en va de même pour les coureurs chrétiens à long terme. Troisième leçon. Courir avec un objectif en tête. Les coureurs physiques ont des objectifs. Ils peuvent s'entraîner pour un 5 km. Il peut s'agir d'un marathon de 26,22 miles. Ces personnes sont folles. Mais ils ont des plans d'entraînement pour y parvenir. Il s'agit là d'objectifs à plus court terme qui s'inscrivent dans leur style de vie de coureur en général. Mais ils veillent à respecter ces objectifs. Mais pour nous, spirituellement, nous avons un objectif à long terme, et c'est la même chose. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tandis que nous continuons à courir, assurez-vous que c'est votre objectif, que c'est notre objectif, et que c'est la chose vers laquelle nous courons tous. Frères et sœurs, que nous finissions fort. Que le royaume vienne dans quelques jours, ou qu'il finisse par durer des semaines, ou même des années, nous finirons par être forts. Il faut toujours faire comme si le royaume de Dieu était juste derrière la prochaine colline, juste au coin de la rue. Dans notre esprit, c'est ainsi que cela devrait être. Et peu importe la fatigue de nos jambes ou le temps que nous avons passé à courir dans cette vie, gardons cela à l'esprit. Le royaume de Dieu pour que nous puissions finir en force. Philippiens 2. La triste réalité du christianisme est que certaines personnes abandonnent. Ils ne continuent pas à avancer. Ils peuvent perdre de vue l'objectif final. Et nous devrions nous assurer, en tant que frères. Cela pourrait se poursuivre sur le dernier point, mais nous devons nous encourager les uns les autres. Gardez cet objectif à l'esprit. Philippiens 2. J'ai dit cela, et je n'ai pas tourné là. Nous pouvons lire le verset 4. Que chacun ne regarde pas à ses propres affaires, mais aux affaires d'autrui. Dans cette course chrétienne à long terme, ce mode de vie qui est le nôtre, nous pouvons nous aider les uns les autres. Verset 14. Faites tout sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et inoffensifs, fils de Dieu, sans reproche en Dieu, au milieu d'une nation perverse et tortueuse, dont vous brillez comme des lumières dans le monde, des exemples éclatants de progrès vers ce royaume. Et au verset 16, tenant la parole de vie, afin que je me réjouisse au jour de Christ, de ce que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Paul parle de se réjouir au jour du Christ, de n'avoir pas travaillé en vain. Nous avons parcouru un long chemin, mes frères. N'abandonnez pas maintenant. Ne vous laissez pas abattre. Assurez-vous, comme Paul l'a dit ici, qu'il n'a pas travaillé en vain, que nous n'avons pas travaillé en vain. Si vous abandonnez, tout le temps que vous avez consacré à cette tâche n'aura servi à rien. En cela, assurez-vous que nous nous appuyons tous sur l'Esprit de Dieu, que la douleur et la fatigue peuvent s'installer ici et là, mais appuyez-vous sur l'Esprit de Dieu. Il va vous donner de la force et vous aider à aller de l'avant. Passons à Ésaïe 40. Alors ces fois où vous sentez que vous flanchez, et que c'est plus difficile, examinez-vous, que nous puissions voir où nous manquons, ce qui nous manque, et comment Dieu peut nous aider, nous pouvons nous appuyer sur lui. Ésaïe 40 et le verset 31. Alors, quand les choses sont difficiles, souvenez-vous de ces versets, rappelez-vous-en pour garder cet objectif à l'esprit, pour finir fort. Ésaïe 40 et verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils s'élèveront avec des ailes d'aigle. Ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. 1 Corinthiens 9. Ajoutez ces versets à votre arsenal pour que vous puissiez les garder à l'esprit, alors que nous continuons à courir, ou que les coureurs de longue date en font leur mode de vie. Ces versets peuvent tous nous aider à garder l'esprit sur cet objectif. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez donc pour obtenir. Et tout homme qui s'efforce d'acquérir de la maîtrise s'affermit en toute chose. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, nous avons une couronne incorruptible. C'est pourquoi je ne cours pas comme un incertain. Je ne lutte pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je garde mon corps et je le soumets. De peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Courons que nous puissions obtenir, mes frères. 2 Timothée 4. C'est plus tard dans la vie de Paul. Mais il a un exemple qui peut nous encourager aussi. Vous pouvez penser à tout ce que Paul a traversé et prendre le temps de l'étudier. Il fait également partie de la nuée des témoins. Et voici ce qu'il a dit vers la fin de sa vie. 2 Timothée 4 et verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Dès lors, il m'est réservé une foule de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera ce jour-là. Non seulement moi, mais aussi ceux qui aiment l'apparition. Et Apocalypse 3. Voilà donc l'exemple de Paul. Voici les mots que nous voulons entendre. Apocalypse 3. Nous courons donc avec patience. C'est l'endurance. Il peut y avoir une attente, comme cela a été le cas pour presque chacun d'entre nous. Nous devons garder l'esprit fixé sur ce but. Apocalypse 3 et verset 7. Il s'agit donc de l'église de Philadelphie. L'ange de l'église de Philadelphie écrit ces choses. Dit, celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, a ouvert, et personne ne ferme, et personne n'ouvre. Je connais vos œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé la parole de ma persévérance. Gardons tous cet objectif à l'esprit, que le royaume de Dieu est si proche, et que nous pouvons entendre ces mots. Vous avez gardé la parole de ma patience, et vous n'avez pas renié mon nom. Revenons une dernière fois à Hébreux 12. Et au premier verset. En lisant ce verset, pensez à tout ce qu'il contient. Toutes les leçons que nous en avons tirées. Et que vous pouvez l'ajouter à toutes les autres que nous avons eues. Que vous pouvez garder à l'esprit tout en continuant à aller de l'avant. C'est pourquoi, voyant que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, dépouillons-nous de tout poids et du péché qui nous accable si facilement, et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Poursuivant. En regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix, il a été cloué au poteau, méprisant l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ainsi, chaque fois que nous nous présentons devant Dieu dans la prière, le Père, Jésus-Christ est là aussi. Il a enduré tant de choses en tant qu'être humain, il est descendu et il sait ce que nous traversons. Nous pouvons nous appuyer sur lui et le Père peut vous encourager. Rappelez-vous qu'il est l'auteur et le finisseur de notre foi. Frères et sœurs, la course spirituelle à long terme n'est pas une simple poussée d'énergie spirituelle. Ce n'est pas un simple sprint. Cela prend du temps. C'est un voyage disciplinaire cohérent de toute une vie. Cela implique de la patience, de l'endurance. Réfléchissons à nos progrès, au chemin parcouru, regardons en arrière, puisons notre motivation dans la nuée de témoins et les uns dans les autres. Efforçons-nous de nous souvenir de cet objectif et de terminer en force. Frères et sœurs, courons tous avec patience.